podcast Passeur de vécu, partie 2, André.
J'ai jamais eu de monde de ma vie. Je dis que j'ai pas besoin d'avoir l'heure, j'ai le temps. Et ça, c'était une volonté de vraiment disposer de mon temps comme je l'entendais. Je fais des siestes l'après-midi, je fais des siestes quand je veux. J'écris une partie de la nuit. Et j'écris jamais parce que je suis obligé de le faire. Les obligations, j'ai laissé tomber ça. Les obligations, la mauvaise conscience, avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez, dans le cul, ok? Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, ok? En autant que ça ne nuise pas aux autres, que je ne sois pas malveillant, et si ça me fait du bien, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de référendum à faire pour vivre ma vie comme je l'entends.
Mais... Et ta famille, comment, t'as une fille aussi que je connais, mais comment, en fait, tes rapports avec eux, ils sont locaux, comment ça se passe? Vous avez des réunions fréquentes ou les rapports avec la famille, comment c'est?
J'ai quatre filles, les trois plus vieilles sont complètement autonomes. Elles ont 41, 39 et 37 ans avec leur famille.
Oui,
à Montréal. Oui. Et celles-là, je les vois pas nécessairement souvent, mais on se parle. Et surtout quand elles frappent un os, elles appellent papa pour discuter de la situation, comment je pourrais les aider, les soutenir. C'est pas souvent avec de l'argent. J'en ai pas, sauf que j'essaie de voir clair dans leur vécu à partir des expériences, parce que, tu sais, ne pas travailler, ne pas pointer le matin jusqu'au soir pour travailler, pour avoir des préoccupations de ce qui va être rentable pour les autres, ça te laisse du temps pour réfléchir. Réfléchir, c'est un verbe d'action. Et moi, ça fait 22 ans que je suis à la retraite. J'ai eu le temps de réfléchir sur ma vie. J'ai le temps de réfléchir sur ce que je vois. Il n'y a pas de quoi m'en péter les bretelles puis me voir meilleur qu'un autre, mais au moins, je le prends. Et c'est pas forçant quand un de mes enfants me dit « Bon, écoute, je vis telle situation. » J'essaie de voir à partir de ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu que d'autres avaient vécu, de les aider à cheminer, de les épauler, d'avoir la main sur l'épaule. Mais ailleurs, plus loin que ça, je me dis, elles sont autonomes. C'est pas moi, je veux pas que personne ne dirige ma vie. J'irai pas diriger leur vie non plus, d'aucune façon.
Ça mais ils viennent vers toi s'ils en ont envie, au moment où ils en ont envie. Nous, c'est pareil.
Ils viennent quand ils en ont envie. Parfois, ils sentent le besoin de partager sur. Ils frappent un os, ben. On en discute, mais parfois c'est tout simplement pour partager un moment de bonheur ou quelque chose qui leur arrive, on le fait. Mais encore là, il n'y a pas de manuel d'instruction de dire que pour être une famille unie et heureuse, on doit se voir et faire tant de repas de famille par année ou par mois ou par semaine. C'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas mathématique, OK? Ouais. Les relations, tu le sais, toi, t'as deux filles qui sont à Montréal, tu les vois une fois ou deux ans, votre relation peut pas être mathématique, même si vous vous rejoignez avec Skype puis vous échangez tout ça.
Pas trop, parce que en fait, avec le décalage horaire, c'est pas toujours facile.
Mais tu vois, mais c'est pas mathématique. Et je crois que on doit sortir de ces aspects mathématiques-là dans tous les aspects de vie le plus possible, de se créer des contraintes, rentrer dans le moule, fonctionner comme tout le monde. Ce sont parfois les originaux qui font avancer la société. C'est ceux qui passaient pour des tordus, là, des méga crackpots, comme on dit ici, là, tu sais, qui avaient pété un plomb. Ceux qu'on définissait comme tels, il y a 50 ans, c'était peut-être des précurseurs. OK? Ça fait que il faut pas avoir peur d'être différent. Essentiellement, on est tous différents les uns des autres. Alors, laissons vivre nos différences, prenons des risques, prenons le risque d'être nous-mêmes, et on va avoir des belles rencontres à ce moment-là.
Mais tu vois, l'angoisse des gens et des jeunes ou des moins jeunes, c'est de dire, est-ce que je vais y arriver? Si je prends telle décision, c'est la peur du lendemain, c'est le chômage, comment je vais assumer financièrement et les enfants et l'éducation?
Ben, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu n'y arriveras pas. Et puis, tu n'arriveras pas à savoir si tu peux le faire si tu ne l'essayes pas.
Ben oui, complètement. Bon. Ouais.
Et le lâcher prise, c'est fantastique. Le lâcher prise, c'est tasser la peur. La peur, c'est le cancer qu'on a aujourd'hui. La façon dont on contrôle l'univers, dont les médias contrôlent l'univers, les médiocres, la façon dont les politiciens, la façon dont tous ceux qui font du marketing contrôlent l'univers, c'est qu'ils vendent la peur. Ils te vendent la peur que si tu n'as pas tel produit, tu vas être malheureux, que si tu ne penses pas de telle façon, tu vas te casser la gueule, OK? Tu vas trébucher.
On entretient.
Alors, on entretient la
exact,
peur,
oui.
OK?
Oui,
on ne parle que des avions qui tombent. On ne parle pas de tous les avions qui ne tombent pas. Tu sais, ça, on n'en parle jamais dans les médias. On parle de la roue qui grince. On met de l'huile sur la roue qui grince. Et si tu suis les infos, c'est pénible. Un martien qui vient ici, qui vient sur Terre, il se dit, mais quelle planète de cinglés. Et les bonnes nouvelles, les trucs tout simples, tu les vois pas aux infos. Alors, dans nos vies, c'est la même chose. Ça se décalque, OK? Et on finit par être des peureux, OK? On s'essaye, on va voir. C'est normal d'avoir peur. C'est normal que tu fasses quelque chose pour la première fois ou si tu as été échaudé de vouloir te réessayer. Mais à un moment donné, tu t'essayes et tu te dis, ah, ben c'est peut-être pas si pire, ou je découvre une nouvelle façon, ou je découvre une nouvelle force à l'intérieur de moi. Parce que on utilise si peu des forces qui sont à l'intérieur de nous qu'on ne les connaît pas.
Oh, ça, c'est, et parfois, quand tu as un grand blocage ou une situation de vie compliquée, difficile à tenir, quand tu es forcé de changer d'attitude et de mentalité, c'est sous le choc, tu passes un moment difficile, ça dure, et puis après, il y a une opportunité. Tu te retrouves avec complètement autre chose.
Exactement.
Et ça, c'est très riche. Hein.
Et c'est faire confiance au temps, ça. C'est aussi essayer de voir dans chaque problème le côté positif qui peut venir avec. Je prends l'exemple du divorce. Quand je rencontre des gens qui divorcent, qui trouvent ça difficile, je sais que c'est difficile, je l'ai fait deux fois. J'ai divorcé deux fois. Après la mort d'un conjoint ou d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Les symptômes post-traumatiques, là, après le divorce, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et on a un avion qui nous passe au-dessus de la tête. J'espère qu'il ne tombera pas, celui-là. Tout semble indiquer que non. Quand je discute avec quelqu'un qui est en train de vivre un divorce, OK? C'est un pléonasme de dire difficile, c'est souvent difficile. Mais je dis, un abcès qui pète, quand tu es rendu au bout des possibles, tu es rendu au bout des possibles, un abcès qui pète, c'est le début de la guérison, c'est pas le début de la maladie. Mmh. Et souvent, on a l'impression que quand il y a un abcès qui pète, OK, dans nos vies, que c'est le début de la maladie. C'est juste le début, c'est qu'on est en train de comprendre qu'on est rendu au bout des possibles. Là. Et que si on est rendu au bout des possibles, c'est tout simplement situationnel. C'est pas nécessairement dû à l'autre qui est en face de nous, c'est pas dû au patron, c'est pas dû au conjoint. Il n'y a pas de malveillance de part et d'autre. On est rendu au bout des possibles. On se réoriente et c'est toujours l'individu qui est important, beaucoup plus que le couple, beaucoup plus que la compagnie, beaucoup plus que le rapport annuel de profit ou de perte d'une multinationale. C'est comme ça qu'on doit le voir. On empête presque quotidiennement des petits abcès, là, tu sais. Mm. Ben, c'est ça, lâcher prise, c'est regarder, puis se dire, ah, derrière la merde, il y a des fleurs qui poussent, OK? Il y a des fleurs qui s'en viennent, OK? Ça fait que, avec ce regard-là, c'est beaucoup moins lourd à porter. Puis l'anxiété dont tu parlais, mais elle disparaît. Moi, l'anxiété, je connais pas ça. Je suis cool. À côté de moi, le Saint-Suaire est un os du breakdancing. Mm. Tu sais, là, je suis... Et je tiens peut-être ça de ma mère, je ne sais pas. Mais l'anxiété, quand ça a été inventé, je n'étais pas là. Et c'est peut-être une de mes belles richesses aussi.
Voilà, je voudrais demander une autre approche, parce que si tu veux, l'anxiété... quand on arrive à près de 70, on commence à faire un peu le bilan, pas toujours, mais on se dit, voilà, je suis dans le dernier quart de vie, qu'est-ce qui me reste à faire, comment je vais le vivre, est-ce que ça te préoccupe, est-ce que ça te fait peur?
Est-ce que j'aurai le temps de mourir?
Est-ce que je serai en bonne santé? Je vais pas me retrouver seul ou grabataire ou ceci, cela? Ouais. En fait, si tu veux, on commence à cet âge-là à se alors, il paraît que ça se prépare et que ça s'organise.
On serait supposé d'être sur le déclin. Moi, je crois pas qu'on soit sur le déclin. Tout ça, il y a une grande partie qui se passe dans la tête. La vie, Claude, c'est un grand banquet. Okay? Rendu à nos âges, dérangeons le pluriel, là, tous les deux, là, à l'entour de 70, on a goûté à peu près à tous les plats, à tous les mets. OK? On est rendu au dessert. Est-ce qu'on va cracher dans le dessert parce qu'on n'a pas de dents aujourd'hui? On doit fêter, on doit déguster. Et je crois que le regard, même sur la maladie, OK? Moi, tout à l'heure, on disait que j'étais un agent de valorisation. De valoriser les autres, de leur permettre de faire des choses positif, de se voir positivement, ça m'a toujours, d'aider les autres, ça m'a toujours valorisé. Mmh. Si un jour, je suis dans un fauteuil roulant, ou que je ne suis plus capable de me laver, qu'on soit obligé de me transporter dans le bain, me laver, ou de m'asseoir, ou de me lever, tout ça, je rendrai à la vie ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire que je permettrai à d'autres gens de se valoriser. Il n'y a pas juste moi qui peux se valoriser. Et par ma seule présence, en étant en déclin, par ma seule présence, j'aiderai d'autres personnes à se valoriser. Je serai donc utile, OK? Plutôt que de voir que je suis dans l'inutilité et que je suis un poids, je suis un atout. Ma diminution,
même diminuer,
ben, le fait de diminuer me permettrait d'être utile différemment. Alors que j'ai été l'aidant, je serai un jour l'aidé. Et ça sera peut-être une leçon d'humilité à découvrir dans ma vie et essayer de la découvrir avec le sourire. Tu sais? Mmh. Et de sauter sur cette occasion pour vraiment faire sentir aux gens qui m'aideraient qu'ils sont drôlement utiles. Okay? Et ça les valorise, ça, c'est leur donner. Et puis l'autre aspect aussi, j'ai pris un contrat, moi, avec la vie, en me disant, si j'ai pu vivre jusqu'à cet âge-ci, et si je peux vivre jusqu'à encore 10, 15, 20 ans, j'ai cette chance-là. Chance que mes enfants n'ont pas encore eu, que mes petits-enfants n'ont pas. Si j'ai cette chance-là, c'est sûrement pour quelque chose. Et c'est peut-être pour dire à ceux qui suivent, par l'exemple, qu'on peut être heureux longtemps, même avec pas grand-chose. Même en étant dépouillé, on peut être heureux longtemps. Et si les plus jeunes me regardent, puis ils se disent, « Hey, le bonhomme, là, le vieux barbu, là, il a l'air d'avoir un fun bleu, il a l'air d'avoir un plaisir fou dans la vie. » ça veut dire qu'on peut être heureux longtemps. Je leur donne la projection, je leur permets de fantasmer leur vieillesse d'une belle façon. OK? Mm-hmm. Je leur donne de l'oxygène et ils se disent pas en me regardant, oh putain, j'ai pas hâte d'être comme ça, moi.
Mais c'est
moi.
Bien, t'as.
Et ça, c'est un beau contrat, ça, c'est un don aussi. Mm-hmm. Et ce contrat-là, je l'ai pris. Si j'ai eu la chance de vivre jusque-là, j'ai le contrat d'être heureux. Je n'ai pas le choix, je suis condamné à être heureux. Je me suis condamné à être heureux. Sinon, les jeunes qui me regardent vont se dire, « Oh putain, j'ai pas hâte d'être rendu à son âge. » OK? Mm. Alors que là, la plupart que je rencontre, ils se disent, hey, « j'ai hâte d'arriver à cet âge-là. » OK? Mm. « J'ai hâte d'arriver à cet âge. » J'ai ti hâte. C'est ch'ti, ça, hein?
Ouais.
Expression.
Mais... Ouais. C'est vrai qu'on est dans le jeunisme, on valorise la jeunesse, le sport, l'activité, le débordement de choses comme ça, mais toi tu donnes un peu une leçon de vie, une façon de contrecarrer un peu tout ça, une éthique qui est intéressante. Et puis j'espère qu'à l'écoute ça leur fera un petit écho. Et s'ils sentent le besoin à travers moi de te contacter, pourquoi pas, hein, nous on reste ouverts pour avoir ce type de...
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et moi, je ne me sens pas jeune. Là. Je ne veux pas me dire que je suis jeune. Là. On se contrôle pas de peur. J'apprends beaucoup de mots dans le vocabulaire parce que je commence à avoir des problèmes physiques. Je ne savais pas que j'avais ces mots-là à l'intérieur de moi, ces parties-là. Un jour, on m'a dit que j'avais des problèmes de diaphragme. J'ai dit, ma femme a un diaphragme. Moi, je n'ai pas de diaphragme. et tu vois, ça fait que je vieillis. Il y a des parties qui s'en vont, mais je me sens... Puis je ne voudrais pas être jeune. Je ne voudrais pas être... une heure plus jeune. Je voudrais pas être une heure plus jeune. On n'aurait pas eu le plaisir de faire cette entrevue si je rejeunissais d'une heure. C'est-à-dire, on recule en arrière. Si je rejeunis de 4 ans, je te connais pas, Claude.
Non, c'est vrai.
Pourquoi je rejeunir? Tu serais pas mon ami d'enfance.
Écoute, tu vas nous faire une petite conclusion à ta façon. Donc, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour bien vivre sa vie, bien vieillir et puis bien vivre sa retraite? Allez, fais-nous ça en quelques mots. Ça va être difficile, mais je sais que c'est
meilleur. Le meilleur conseil que je peux vous donner, ne prenez pas de conseil. Aucun conseil.
Bon, c'est déjà une belle formule.
La bride sur le cou. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Ne prenez pas les conseils. Vous êtes capable de réfléchir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. C'est pas compliqué. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous le voyez peut-être pas, c'est tout. Bonjour les enfants!
Bonjour.
Faut dire que je ressemble un peu au Père Noël et que quand les enfants passent, ils me prennent pour le Père Noël avec la grande barbe.